con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission à l'air libre, aujourd'hui avec l'écrivain Christian Garcin. Christian Garcin est né à Marseille, il vit à Aubagne. Il est professeur de collège et a exercé divers emplois. Il voyage et écrit beaucoup. On a dit avec ces quelques mots l'essentiel sur sa vie. Le reste, il faut le débusquer dans une œuvre ample, émouvante, captivante, tant par la variété de ses formes que par les multiples ramifications thématiques et fictionnelles qu'elle contient. Sans limite de genre, il écrit des récits, des nouvelles, des romans, des essais, sur la peinture en particulier. L'image en général le passionne, l'histoire de l'art aussi, ou la littérature évidemment. Il mêle d'ailleurs ces différents genres parfois pour des textes singuliers. Son premier livre paraît en 1992 chez Gallimard, dans la collection L'un et l'autre. Il s'attache à rédiger de nombreux portraits, des fictions biographiques courtes, réunies dans ce premier ouvrage intitulé Vidas, qui a été réédité en 2007 en folio. Il serait trop long d'énumérer l'ensemble de ses ouvrages, parus depuis, mais on peut citer quelques-uns. Sortilège, paru chez Champvallon en 2002. Fée, Diable et Salamandre, toujours chez Champvallon en 2003. Lexique, sous forme d'abécédaire, qui réunit certains de ses thèmes les plus chers, paru à l'Escampette en 2002. Et suivi quelques années plus tard, en 2006, toujours à l'Escampette, de Prise au mot, intitulé, sous-titré plus exactement, Lexique 2. On peut citer également les livres suivants, Itinéraire chinois, entre parenthèses une énigme, à l'Escampette en 2001, La neige gelée ne permettait que de tout petits pas, qui malgré son titre long est un texte court et très évocateur, le titre le suggère assez je suppose, paru chez Verdi en 2005. Les romans du bruit dans les arbres chez Gallimard en 2002 et l'embarquement chez Gallimard en 2003. C'est justement à propos de la publication récente, relativement récente de son dernier roman, La piste mongole chez Verdier, qui me donne l'occasion de l'inviter. Cela faisait longtemps que je souhaitais l'inviter. Ce roman, donc La piste mongole, se situe quelque part en Mongolie ou dans quelque autre réalité plutôt instable, puisque les mondes s'y chevauchent, les narrateurs s'y superposent. On y voit réapparaître Eugenio Tramonti, protagoniste de deux premiers romans, Le vol du pigeon voyageur et La jubilation des hasards, paru chez Gallimard, ou plus exactement son ombre, son évocation. Une sorte de quête initiatique où le romancier multiplie les pistes, les niveaux de fiction, les troubles de la réalité et de l'imaginaire, le tout sur un mode ludique et jubilatoire. Christian Garcin possède une écriture qui redonne au verbe et à l'écrit le pouvoir mystérieux de l'évocation, du voyage, du songe qui atteint à une autre réalité. Je le retrouve chez lui, à Aubagne, un jour ensoleillé, sur la terrasse d'une maison située dans le quartier ancien de la ville. Christian Garcin. Christian, on est chez toi, dans ta maison à Aubagne, sur la terrasse, au soleil, parce qu'il fait chaud aujourd'hui.
Ouais, très chaud.
C'est très tranquille. Tu as choisi ce lieu, c'est parce qu'on n'en a pas parlé, donc je suis un peu curieux de savoir comment tu as atterri à Aubagne, depuis quand?
Oui, ça fait un moment, c'était en 86 ou 5, 6 je crois, ma fille avait un an. C'était un concours de circonstances, j'avais un ami architecte qui avait, il y avait un plan à l'époque qui était celui qui s'appelait comment, Banlieue 89, c'était Roland Castro, l'architecte qui n'y a pas longtemps a failli ou a été, je ne sais plus, candidat à la présidentielle, ouais. Aux dernières présidentielles. C'était Roland Castro qui était responsable de ce plan de restauration, de rénovation des centres-villes anciens, des banlieues de grandes villes. Voilà.
Donc, oui, c'est Aubagne et c'est là où on est.
Donc c'est Aubagne. Voilà. Et il y avait donc pas mal de vieilles maisons, de vieux appartements qui étaient restaurés, rénovés. Puis il y avait un programme de subvention c'était assez largement subventionné également par l'État. Et cet ami qui était architecte ici à Aubagne m'avait dit, tiens, puisque tu comptes, à l'époque on comptait acheter quelque chose, voilà, ben, à Aubagne il y a ça. Alors je comptais pas du tout au départ venir à Aubagne, enfin Aubagne ou ailleurs, pourquoi pas. Et puis j'ai atterri là, et j'y suis resté, parce qu'une fois qu'on y est, bon, oui. On reste. Hein. Non, ça se passe pas mal, quoi. C'est bien.
Et ce qui m'intéresse toujours, moi, et ce qui m'intrigue un peu, c'est de connaître un peu les endroits où les écrivains s'installent pour écrire. Tout à l'heure, tu m'as dit, mais oui, j'écris là, ou alors là, ou je m'installe là. Tu es dans une maison, mais tu es dans un lieu fixe, mais en fait,
c'est pas forcément lié à un bureau d'écriture.
Non, j'ai pas vraiment de bureau. Si j'avais un bureau, il serait pas ici, il serait dans mon autre maison qui est dans les Alpes, dans ce petit village où je vais souvent l'été et puis parfois aussi pendant des vacances. Où c'est l'endroit où je me sens le mieux pour écrire là, là-bas. C'est l'endroit aussi où je suis le plus productif, si on peut utiliser cet adjectif, pourquoi pas d'ailleurs. Voilà, c'est un village qui s'appelle Pras, qui est dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est là où j'écris. Alors le plus, je n'en sais rien, je ne vais pas compter le nombre de pages que j'écris là-bas et celles que j'écris ici, mais où je me sens le plus tranquille, le plus à l'aise, le mieux pour écrire. Ici, ça m'arrive aussi, évidemment, bien entendu, puisque je passe quand même l'essentiel de l'année, mais je n'ai pas de lieu fixe. Comme c'est une maison qui est verticale sur trois niveaux, avec pas mal de petits recoins, d'espaces protégés, enfin, on peut s'isoler très facilement dans cette maison. Je travaille parfois sur la table de la cuisine, parfois sur le canapé du salon, parfois sur un bureau qui est dans une chambre, parfois sur un autre bureau qui est dans une autre chambre. Enfin, voilà, j'ai pas de lieu.
Quand on regarde d'ailleurs, parfois à la fin des livres, tu mets les lieux d'écriture. Je me souviens, je crois que c'est pour la jubilation du hasard, il y avait 4 ou 5 lieux d'écriture.
Oui, il y avait Aubagne et Pras, forcément. Donc ouais. Voilà. Et puis pour la jubilation, je crois qu'il y avait Fribourg en Suisse, j'avais passé quelques temps et j'avais. Peut-être pas terminé, mais en tout cas écrit une partie du roman là-bas. Et Avignon aussi, parce qu'à l'époque, mon ami, ma compagne actuelle, Isabelle, habitait à Avignon, donc j'étais aussi souvent à Avignon, donc voilà, je devais avoir ces 4 lieux là. Maintenant, Avignon, elle n'y est plus, elle est ici. Donc ça fait un endroit de moins où je travaille.
Voilà. Et est-ce que ça correspond à l'ambiance dans laquelle tu es, l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu écris, d'avoir justement ce flottement des lieux, des endroits d'écriture, une certaine instabilité sans qu'il y ait forcément quelque chose de négatif là-dessous, mais
je ne sais pas. Alors c'est pour aucune idée. Alors c'est possible. En même temps, au moment où j'écris, on est tellement plongé verticalement dans ce qu'on fait que. Que ce soit là ou ailleurs, finalement, le territoire que j'arpente, c'est un territoire mental, enfin intérieur, donc j'ai pas l'impression que le... Je ne sais pas si je pourrais écrire n'importe où, mais je ne sais pas si le fait d'avoir plusieurs endroits... Donc je suis pas un maniaque du lieu, quoi. Il me faut pas absolument tel endroit, ni telle heure, ni tel, je ne sais pas, tel stylo. D'ailleurs,
j'ai pas d'habitude.
Ouais, j'écris pas au stylo, j'écris au clavier. Mais voilà, oui, pas... non, il n'y a rien vraiment. Ce qui est certain, c'est que dans les Alpes, lorsque je suis là-bas, à la montagne, il y a une espèce de. Lorsque j'arrive dans cet endroit, il y a une espèce de silence massif qui est plus silencieux que le silence d'ici. Même s'il n'y a absolument aucun bruit, et ça arrive parfois dans la journée, en semaine, bon, le week-end aussi du reste, le silence, bon, comme chacun sait, enfin, le silence montagnard est plus dense, quoi, et plus massif, et plus épais. Il y a une qualité de silence, une qualité de résonance aussi des sons qui est sans doute différente. Et ce qui fait que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Après, oui, effectivement, les endroits différents. Bon, que ça se retrouve ou pas dans ce que j'écris, je n'en sais strictement rien. Peut-être, c'est à toi à le dire. Hein, j'en sais rien.
Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a du nomadisme dans les thèmes d'écriture. Ah, il y a du nomadisme dans peut-être les lieux où tu écris aussi. Puis cette manière... que tu as de lire toi-même, c'est-à-dire dans tes lectures. Mais voilà, j'associe les choses.
Possible.
À propos de ce silence, là, ça m'évoque évidemment le silence particulier aussi qu'on ressent en paysage de neige, enneigé. Je ne sais pas si. Parce que c'est aussi une des choses qui revient dans ton écriture, cette présence de la neige et cette ce paysage qui change aussi bien d'un point de vue sonore que visuel.
C'est frappant, oui. Ça aussi, ce sont des expériences communes. Mais enfin, le fait de d'arpenter un endroit en montagne l'été et puis le même endroit l'hiver, évidemment, on n'a pas du tout l'impression qu'on est au même endroit. Quoi. Parce qu'on arrive à un bout du monde en hiver avec la neige, alors qu'en été, ça peut être très bien un lieu de passage. Mais... et puis effectivement il y a le silence de la neige évidemment, l'amortissement des sons tout cela, mais aussi le silence du froid. Lorsqu'il m'arrivait, alors là pas du tout ici, mais lorsque j'étais dans le nord de l'Europe ou en Russie en plein hiver, ce qui m'est arrivé lorsqu'il fait des températures que nous n'avons pas ici, comme moins 30 par exemple, là il y a un silence qui est absolu. Mais alors, vraiment absolu. C'est-à-dire que lorsqu'on sort en mitouflé jusqu'aux oreilles, oreilles comprises, évidemment, jusqu'à tout d'ailleurs, parce qu'on laisse par les yeux et encore, on ne laisse pas grand-chose à l'extérieur par cette température-là. Lorsque l'on est dehors, il y a une... On a l'impression d'entrer dans une carte postale figée, quoi. Évidemment, tout est absolument gelé, forcément, et le silence est gelé également, quoi. C'est vraiment du silence gelé. Oui. C'est une autre expérience du silence. Qui est assez frappante. Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ouais. Ça. Enfin, cet hiver.
L'absence d'être vivant aussi, peut-être.
Ah, sans doute, ouais. Oui. Ouais, oui, alors, ce qu'il y a d'amusant quand on arrive dans... Je me souviens d'un jour, on était... j'étais avec des amis, on était dans le nord de la Suède, enfin, presque cercle polaire un peu avant. Et... on était pour la fin de l'année, le début de l'année suivante, quoi. On est sorti, il faisait moins de 35, je crois. Quand on est sorti, on a entendu... Comme ça. C'était nos cils qui gelaient. Nos cils, nos poils des oreilles, enfin, etc., qui gelaient. Et tout était mais vraiment figé, quoi, absolument. Et il y avait quelque chose c'était la première fois que ça nous arrivait. Lorsqu'on habite là-bas, lorsqu'on y va souvent, enfin, j'imagine que c'est assez commun, mais c'est vraiment une drôle d'expérience, quoi. Voilà. Anecdote.
Tu parlais de plonger dans un territoire intérieur. Je ne reprends pas exactement tes mots là. Quand tu es en écriture, est-ce que c'est pour toi c'est quelque chose que tu ressens physiquement, quelque chose de vertical,
ah oui, chose absolument,
qui,
ouais.
Qui soit justement en dehors du territoire géographique, parce qu'on on en reparlera de ces géographies que tu arpentes. Et virtuellement et réellement, parce que on entend que tu voyages beaucoup, mais ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de vertical.
Ah oui, c'est vraiment physique, ça. Enfin, c'est une sensation physique, j'ai l'impression d'être vraiment en apnée. Je n'écris pas régulièrement, moi, je ne suis pas très régulier, pas très discipliné, j'ai pas de... Je connais des amis qui écrivent tous les jours, souvent le matin tôt d'ailleurs... qui se lèvent avant d'aller travailler, pour ceux qui travaillent, ou qui écrivent tous les jours tant de temps par jour, pendant tant d'heures. Enfin, moi, je suis absolument incapable d'avoir un emploi du temps. Donc, je n'écris que par période. Et lorsque je suis plongé dans... Alors, le verbe dit bien ce qu'il dit, d'ailleurs. Lorsque je suis plongé dans l'écriture de quelque chose, quoi que ce soit un roman, alors, évidemment, qui prend du temps, ou que ce soit... Un texte assez bref, comme récemment, j'ai écrit un petit texte pour au mois de novembre. Je vais lire ce texte lors d'une journée consacrée à l'écrivain allemand Sebald, au Petit Palais. Mmh. Voilà, c'est un écrivain que j'aime bien ou beaucoup. Donc, alors évidemment, c'est un texte qui m'a pris deux jours, quoi, ou trois. Mais quoi que j'écrive, j'ai vraiment l'impression physique d'être en apnée et de ne faire que ça. Ce qui est faux, évidemment, puisqu'à côté de ça, j'ai une vie sociale, familiale. Je sors aussi bien, ou je sais pas, je vois des films, je peux pas aller au cinéma. Enfin, j'ai une vie normale, comment dire, habituelle en tout cas. Mais j'ai vraiment l'impression physique de ne faire que ça et d'être plongé verticalement dans ce que je fais. Et ça, je le ressens très nettement. Ouais. Et j'aime bien ce moment-là. J'aime bien que lorsque je suis en train d'écrire, donc un travail qui me prend un peu plus. À long terme, disons, un roman, par exemple. Alors là, par contre, il y a une régularité qui se crée. Je sais que lorsque j'ai... Par exemple, quand je suis dans les Alpes dont je parlais, lorsque je suis en train d'écrire, par exemple, un roman, j'écris donc là tous les jours, et je sais très bien qu'il y a des horaires, il y a une espèce d'horloge interne qui se met en place, et je sais très bien qu'il y a des horaires qui sont ceux pendant lesquels j'écris le plus... Le mieux, je ne sais pas, mais le plus spontanément, le plus facilement, et c'est d'ailleurs très régulier, c'est par période de 12 heures, c'est en gros, c'est 10 heures à 2, de 10 heures à 2 heures, que ce soit le matin ou le soir, voilà, en gros, c'est ça, hein, pendant ces périodes-là. Bien. Là, il y a vraiment quelque chose de régulier qui se crée. Ouais. Mais j'avais commencé la phrase en disant autre chose, je ne sais plus quoi, mais c'est pas grave, on va enchaîner.
On va retrouver
c'est le problème de la digression. Je vais écrire sur Sebald. Sebald, c'est un écrivain qui digresse énormément, qui progresse que par digression, comme ça, ce qui est absolument jouissif, parce qu'une digression maîtrisée, évidemment, qui sait très bien où il va. Mais moi, à l'oral, quand je parle, je ne sais pas trop. Même quand j'écris, d'ailleurs, je ne sais pas trop où je vais. Ce qui fait que la
digression... Tu pourrais écrire. Voilà. Alors que là, ça va être plus dur de
exactement,
reprendre.
Ouais. Digression, c'est... Bon, voilà.
Mais cette jouissance dont tu parles d'être plongé dans l'écriture, de l'impression de ne faire que ça, même si justement par ailleurs tu as une vie normale. Puisque tu publies beaucoup, tu écris beaucoup, j'ai l'impression que tu écris beaucoup, chacun à son rythme. On voit régulièrement des textes paraître de toi, et cette régularité-là, enfin régularité, elle est pas... C'est pas forcément à chaque rentrée ou à chaque mois de janvier, mais il y a des parutions fréquentes. Et je me demande du coup si pour toi il y a pas nécessité d'être régulièrement plongé dans cet état.
Nécessité non, enfin si, mais alors moi vis-à-vis de moi, mais pas par rapport à un éditeur ou à des éditeurs, parce que finalement on me demande je ne représente pas un enjeu financier.
On doit même plutôt t'encourager à publier moins pour...
Non plus. Non, tout le monde s'en fout en fait. Donc, je continue comme je veux. Voilà. Non, mais je n'ai pas d'engagement par rapport à un éditeur qui me dirait il faut publier tant de livres tous les deux ans ou je ne sais quoi. Bon, en revanche, quand j'ai quelque chose à écrire, eh bien, je le fais. Et après... Mais alors là, pour le coup, je ne me pose pas la question de savoir ce que ça va être ni où ça va aller. C'est-à-dire ce que ça va être... Dans quel tiroir ça va rentrer, dans quel genre.
Tu ne projettes pas un récit, une nouvelle, un roman?
Très souvent, non. Parfois, là aussi, ce n'est pas régulier. Ouais. Parfois, ça m'arrive. La piste mongole, je savais très bien que ce serait un roman. Mais il m'est arrivé d'écrire des romans une ou deux fois dont je pensais au départ que ce serait une nouvelle. Il m'arrive aussi d'écrire des choses qui ne sont pas très catégorisables, quoi. Des lexiques, une sorte d'essai en mi-chemin entre fiction et biographie, enfin, des choses comme ça. Ça, ce sont des soucis, des inquiétudes, des envies, des désirs que j'ai d'écrire sur telle ou telle chose. Et après, la forme, je m'en fous complètement, et ça devient ce que c'est. Ça devient un livre, et puis... Après, le problème du genre m'intéresse peu. Mais, et comme je ne suis pas lié vraiment à un éditeur, et j'en ai quand même plusieurs, et puis parfois des sollicitations, alors du coup, il y a... Ouais. Parce que il y a beaucoup de livres, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de tout petits livres.
Oui, hein, ouais, donc, ouais. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des rythmes et des formats différents.
Voilà, exactement. Là, j'ai bientôt une petite nouvelle qui va sortir chez Cadex. Bon. C'est une nouvelle, quoi. C'est pas un travail de plusieurs mois. Donc, et ça fait un livre malgré tout. Donc voilà, à côté de la piste mongole, qui est un roman de 400 pages ou 450. Enfin, voilà. Donc il y a. Non, en fait, la nécessité, elle est. J'allais dire intérieure, mais ça fait un peu pompeux. Mais enfin, disons, je sais pas comment dire. Oui, j'ai envie. Plus qu'envie. Besoin, enfin je sais pas, il y a des c'est à dire que ma grille de perception du monde, elle passe par l'écrit, donc je comprends les choses quand je me mets à les écrire souvent.
Oui.
Voilà. Oui. À l'oral, je suis pas dans la spontanéité, je suis pas très bon, j'ai pas de recul comme beaucoup de monde, hein, mais voilà. Certains sont très bons, par contre moi c'est pas, enfin j'ai pas l'impression d'avoir une pensée très construite à l'oral en improvisant comme ça. Il faut que je couche ça par l'écrit, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est souvent en poursuivant une idée que j'arrive à la formuler.
Oui.
Je l'avais déjà, mais je le savais pas en quelque sorte. C'est en l'écrivant que j'arrive à la penser. Voilà. Et ça se passe comme ça. Pour la fiction, c'est comme ça aussi, hein. Quand je pars dans une fiction comme un roman, par exemple, jamais il m'est arrivé au départ de savoir vers où j'allais, quoi.
Ouais.
C'est au fur et à mesure de l'écriture que ça s'organise. Que...
Même une trame générale.
Non.
Tu l'as pas forcément
dit. Non. Non, pas vraiment. Alors là aussi, il y a des variations, mais non, pas vraiment.
Ouais. Et du coup, est-ce que ce travail en profondeur, ce travail vertical dont tu parles, est-ce que tu le ressens aussi sur la durée et pas seulement livre par livre? Est-ce que tu as l'impression que à chaque fois que tu écris un texte destiné à être publié ou tu penses pouvoir l'être, c'est travailler un petit peu plus en profondeur, c'est aller un peu plus dans cette direction verticale?
Un livre par rapport à l'autre, tu veux dire?
Ouais.
Chaque fois creuser plus?
Ouais.
Non.
Donc là, il y a plus de travail sur l'horizontale, c'est-à-dire,
ouais,
que tu mets plutôt chaque livre les uns à côté des autres plutôt que...
Bah, c'est-à-dire que oui et non. Comme toujours, hein, c'est toujours ça, oui et non. Effectivement, chaque livre à côté des autres, oui, mais tous sont reliés. Mm. Tous sont, alors c'est flagrant dans la fiction avec le roman, où il y a une espèce de système qui se met en place et qui fait relier les
oui, là, avec la piste mongole, c'est sûr que c'est, ça poursuit.
Voilà, et puis c'est pas fini, ça va continuer encore une espèce de... Enfin, une fois, l'idée qui me vient lorsque je pense à tout ce que j'écris, qui sont tous ces livres assez disparates à la fois sur les thèmes, sur les formats, puisqu'il y a donc des romans, des nouvelles, des essais, des choses inclassables, enfin. Et chez des éditeurs aussi, qui sont différents éditeurs, trois ou quatre essentiellement, mais aussi des petits livres qui sont des APAX comme ça chez un éditeur. L'image que je forme spontanément en pensant à ça, c'est celle d'un archipel, c'est-à-dire une espèce de territoire comme ça qui est une succession d'îles, mais qui sont reliées souterrainement.
Ouais.
Les unes, alors pas absolument toutes entre elles, mais peu à peu, les passerelles se forment, et puis voilà, quoi, il y a une espèce de réseau, rhizome, pour employer le mot à la mode, ou de réseau souterrain qui est à l'œuvre comme ça.
Ouais. Tu. Parlons peut-être de pas seulement la piste mongole, mais aussi ce que moi je crois ressentir comme évolution, mais peut-être que je me trompe parce que j'ai qu'une partie immergée, j'ai lu beaucoup de tes textes, j'ai l'impression que il garde une part d'imaginaire d'irréel, presque de fantastique, ou employons le mot fantastique, mais peut-être moins présente, moins forte que dans des premiers livres, quand il s'agissait de fiction. Je pense à des choses comme Sortilège.
Encore que Sortilège, justement, là il y a...
Oui.
Ah non, tu veux dire que dans Sortilège, il y aurait du fantastique?
Oui, justement,
d'accord,
voilà.
Exactement,
voilà. Disons, je pense qu'il y a du fantastique et de...
De l'inquiétante étrangeté.
De l'inquiétante étrangeté partout. Voilà. Mais peut-être de manière plus discrète ou plus... je ne sais pas comment dire, justement. C'est une impression que...
Diffuse,
peut-être, oui. Dans tes textes plus récents.
Sauf la piste mongole, quand même.
Justement, mais la piste mongole, c'est...
Et la jubilation des hasards, qui est le roman précédent.
Mais je suis pas certain. J'ai l'impression que c'est pas du même ordre, mais peut-être que tu ressens pas comme ça.
Non, je ressens pas comme ça, non. Disons qu'il y a dans beaucoup de ces livres-là, il y a une dimension, comment dire, irrationnelle. Voilà, on peut employer ce terme-là, ouais. Fantastique, je sais pas, c'est tellement catégorisé comme genre, mais irrationnel, disons. Ouais. Une chose qui m'intéresse assez. Enfin, comment le fait de d'arpenter des réalités qui sont pas immédiatement accessibles, enfin, des choses comme ça. Le fait de se dire que la réalité ne se limite peut-être pas à ce que les sens perçoivent. Enfin bon, bref. Donc une intrusion de l'irrationnel ou du fantastique, ou en tout cas un imaginaire qui est comment dire, qui est ouvert, quoi, voilà. Alors ça, oui, c'est frappant, oui, dans la piste mongole et dans le roman précédent, la jubilation des hasards aussi, mais aussi dans des textes plus anciens. Alors, je suis pas certain que ce soit moins aujourd'hui qu'hier ou plus. Quoi. Je crois que c'est une espèce de main ou de veine, je sais pas comment dire, qui court dans pas mal de textes que j'écris et depuis longtemps, quoi.
Ouais.
Je crois pas que ce soit une affaire de temps. Je crois que ce soit plus aujourd'hui que maintenant qu'avant, ou l'inverse. Je pense pas. Dans le prochain texte qui verra le jour, je sais pas trop quand d'ailleurs. Bon, outre que ça poursuit un peu quelque chose qui est présent dans la piste mongole, il y a aussi quelques allusions à des histoires de métempsychose qui sont... voilà. Il y a toujours cette veine-là qui court, quoi. Bon, je ne peux pas trop bien en parler, après tout.
Si, tu en parles, tu l'évoques. On sait qu'il va falloir te lire pour savoir exactement ce que tu veux dire.
Mais... Très bien.
Justement, à la fin de la piste mongole, il y a une... Je regarde le terme précis, un épilogue, c'est pas une postface, un épilogue, où le gamin fixé, Shyamalan, j'essaie de prononcer correctement, dit au narrateur, vas-y, photographie-moi, mais je risque d'être flou, car vois-tu, je suis multiple. Il me semble que cette phrase résume assez ce que, à la fois ce que tu as dit tout à l'heure, oui et non, en même temps, comme toujours, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on peut être quelque chose et son contraire. Et en même temps, cette intrusion de l'incompréhensible, de l'irréel, dans la vie réelle. C'est-à-dire, je risque d'être flou sur une photo. Et je pense que tu incarnes assez dans l'écriture quelque chose que, à quoi je suis très sensible, moi, c'est que justement la littérature a cette fonction-là de pouvoir être tout et son contraire. Donc,
mais oui, de la même façon que nous-mêmes sommes tout et son contraire, comme tu le disais là, c'est-à-dire que, comme tu disais que je le disais, enfin, oui. Je sais plus, c'est-à-dire
c'est toi
que,
tu l'as dit.
Mais voilà, on dit quelque. Je crois que c'est Calafert qui disait une phrase du style il y a plusieurs personnes en moi, où nous sommes nombreux à l'intérieur, je ne sais pas très bien, et il faut bien que de temps en temps je laisse la parole à l'un d'eux, et c'est pour ça que j'ai l'impression que je donne l'impression de me contredire. Voilà. Mais évidemment, on n'est pas, hein, on n'est pas d'un bloc, loin de là. Et la fiction, en tout cas, c'est aussi ça. C'est-à-dire, m'intéresse de moins en moins le fait de poser un narrateur omniscient ou pas, enfin, qui détient les clés et qui dirige totalement le lecteur vers la vérité que l'on veut lui faire atteindre. Il semble qu'il y a le flou des frontières, la multiplicité des points de vue et la multiplicité des voix, c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. C'est ce que dit le gamin dans l'épilogue, c'est ça. C'est-à-dire que dans ce roman où il y a plusieurs, effectivement, narrateurs, plusieurs points de vue, et où les narrateurs se chevauchent, en quelque sorte, quoi.
Et où il y a des personnages de fiction qui sont... Bah, déjà, à l'intérieur d'un narrateur de fiction, il y a en plus des personnages de fiction empruntés à d'autres écrivains.
Ah oui, aussi.
D'autres écrivains.
Voilà, ça, c'est le petit clin d'œil vers quelques amis, mais voilà, à qui j'ai piqué des noms propres dans une liste à un moment donné, là. Mais voilà, donc, oui, tout ça, ce jeu sur l'identité, en quelque sorte, quoi, que ce soit celle de celui qui écrit ou celle de celui qui raconte ou celle des personnages qu'il met en scène, ce jeu sur les identités, c'est ce qui m'intéresse... Le plus, j'en sais rien. Ce qui m'intéresse beaucoup, en tout cas.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et c'est la même démarche pour l'identité géographique. On ne va pas parler d'identité nationale, même si c'est très à la mode. ce flou des frontières réelles, cette fois-ci géographiques, où, je disais tout à l'heure, à la fois, tes livres sont des sortes de récits de voyages fictifs dans des territoires qui existent, mais qui sont réimaginés, repassés par le prisme de la fiction et même là aussi du fantastique parfois, parce qu'on passe d'un territoire à l'autre d'une manière absolument pas logique pour un géographe et en même temps tu voyages réellement
oui beaucoup.
Tu te déplaces sur la Terre, quand même.
Moi, je ne souffris pas du tout au point de vue de Beckett, qui faisait dire, parce que Beckett, pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit dans ce qu'il raconte, mais qui disait « Je suis con, mais pas au point de voyager, quand même. » Voilà. Moi, je suis con au point de voyager. Ouais, et beaucoup. Mais il y a plusieurs choses, là. C'est-à-dire que, alors, d'une part, il y a le voyage lui-même, le déplacement, le fait d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs si j'y suis, en quelque sorte. Quoi. En gros, c'est ça. Hein. C'est-à-dire voir des choses différentes, mais être soi-même différent.
Ouais.
Forcément. Donc,
c'est une phrase pleine de bon sens, en fait.
Voilà. Donc, le voyage qui a sur moi un effet qui est un moteur d'écriture, ça c'est évident. Comme la promenade peuvent l'être pour certains, ou je ne sais quoi pour d'autres. Enfin, moi, le fait de voyager, notamment en train, mais pas uniquement, c'est vraiment un moteur, quoi, moteur d'écriture. Au demeurant, les lieux que je visite ne sont pas forcément ceux dont je parle, quoi. Il y a ça aussi qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, pour écrire la piste mongole, je suis allé en Sibérie, en Mongolie, parce que j'avais le projet d'écrire un roman qui se déroulerait en Sibérie et en Mongolie. Or, le lieu dont je parle, en Sibérie et en Mongolie, je ne suis pas allé. Ce n'est pas ce où je suis allé. C'est-à-dire que, par exemple, je parle du lac Baïkal dans la piste mongole. Il y a tout un chapitre au bord du lac Baïkal, sur la rive est du lac Baïkal, où je n'ai jamais mis les pieds. Moi, j'étais sur la rive ouest du lac Baïkal et sur une île en son milieu. Donc, il y a quand même quelque chose aussi de... je peux pas très nettement, ou alors je fais un récit de voyage, mais ça c'est autre chose, raconter, enfin m'appuyer sur les lieux où je suis effectivement. Je peux le faire, mais en tout cas je ne le fais pas, ou pas souvent. Au demeurant, il y a de toute façon le temps qui se charge, pour le coup, de comment dire, d'effacer les traces un peu. Ouais. Lorsque j'ai écrit il y a quelque temps Le vol du pigeon voyageur, j'ai écrit ça il y a longtemps, il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, je crois que c'est en 4... bon, je dû l'écrire en 99, il doit y avoir 10 ans. Pas mal de scènes se passent à Pékin, et un Pékin de 1980, pour moi, 14 je crois, ou 13, je ne sais plus très bien, la troisième fois où j'étais allé. Et il y a quelques scènes qui se déroulent dans une avenue de Pékin, dans laquelle je situe un endroit où se trouvent le personnage principal et d'autres, qui est l'avenue Wang Fujin à Pékin, que je décris. Mais si tu vas à Pékin aujourd'hui, tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a strictement rien à voir. L'avenue Wang Fujin à l'époque, c'était une avenue large comme un demi-prado, disons. Hein, voilà, c'était boulevard Bai, en quelque sorte. Ouais. Voilà, avec des platanes en plus, hein, qu'on appelle arbre français là-bas en Suisse. En Suisse, en Chine.
Mélange des territoires. Oui, en Chine.
Avec beaucoup de commerce. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une avenue qui fait le double en largeur. Il n'y a plus un platane, il n'y a que des immeubles gigantesques, des enseignes immenses, des panneaux publicitaires de non pas 4 mètres sur 3, mais peut-être 12 mètres sur 5, enfin, je sais pas, avec des tas de boutiques. Mais pour le coup, c'est plus des boutiques pour Chinois, mais c'est des boutiques pour Occidentaux ou pour Chinois riches. Enfin, ça a totalement changé, quoi. Donc, le temps, non seulement les lieux que je décris dans mes romans ne sont pas forcément ceux où j'ai mis les pieds, même si je suis allé plus ou moins à cet endroit-là, même quand il s'agit de parler de lieux que je connais, au bout de quelques années, ce n'est plus les mêmes. Donc, voilà.
Et puis si tu en parles à distance du voyage, il y a le travail d'effacement de la mémoire.
Et de recomposition.
De recomposition. Si tu voulais reconstituer exactement ce que tu as. Vécu pendant le voyage, tu pourrais pas.
Absolument. Non, ou alors, il faudrait prendre des notes au fur et à mesure, tout le temps. Et même, la note est elle-même un crible. De toute façon, il n'y a pas d'authenticité là-dedans. Il n'y a pas de vérité, de sincérité. Ça n'existe pas en littérature.
Tu disais tout à l'heure, ça m'est arrivé rarement...
La sincérité, c'est différent. C'est un autre problème, mais de vérité. Quoi, ouais. Voilà. Oui, pardon.
Non, c'est important comme distinction de sincérité.
Non, mais la vérité, disons que la réalité, elle ne se duplique pas. Quoi. Une fois qu'on l'a vécu, on l'a vécu. Puis si on entreprend de l'écrire, on la fausse, on la gauchit. C'est le. Hein. Donc.
Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est une manière de la comprendre, cette réalité.
Puisque, ah, ça oui.
Puisque pour toi, il faut passer par. Il faut coucher des choses sur le papier.
Oui, bien sûr, ça oui.
Même si tu gauchis et travestis.
Je pense à un genre que je ne pratique pas, qui est celui de l'autobiographie ou de l'autofiction. Autofiction, il y a fiction dans le terme. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas très bien compris finalement ce que ça recoupait. Mais l'autobiographie, on ne peut pas faire confiance à un autobiographe, quoi. De toute façon, si sincère soit-il, ou veut-il être. À partir du moment où il se met à écrire sa vie, il va l'écrire avec le crible, le poids du passé. Enfin, avec. Oui, le poids du passé, en quelque sorte, la quantité de passé, de temps qui s'est écoulé par rapport au moment qu'il décrit. Et puis, il va pêcher par omission. Et puis, il y a le souvenir qui est recomposé. Et puis, est-ce qu'on a oublié? Et puis, est-ce qu'on a bien envie d'avoir oublié, puisqu'on préférerait ne pas... Enfin, c'est de suite. Donc, il y a Daniel Auster, qui était un type qui a publié quelques bouquins d'une grande intelligence chez POL à l'époque, là, qui est mort il y a longtemps maintenant. Il avait écrit une phrase qui disait en gros « Il y a plus de fiction dans le journal d'Amiel que dans les Trois Mousquetaires ». C'est un peu provocateur, mais c'est pas loin d'être vrai. Hein. On peut pas faire confiance à personne, d'ailleurs, mais notamment pas à un autobiographe.
De toute façon, même en parlant normalement dans une conversation, il y a une part d'affabulation...
Oui, presque. Tout ce que je viens de dire est faux.
Voilà.
De toute façon,
faut tout recommencer.
Il faut prendre l'inverse, exactement.
À l'air livre, Pascal Jourdana,
Christian Garcin.
Tu disais tout à l'heure, en parlant des récits de voyage, ça m'est arrivé peut-être rarement, mais moi j'ai pas l'impression que tu écris un seul. Tu disais, je sais pas ce que c'est que l'autofiction, peut-être que moi je sais pas ce que c'est que le récit de voyage, mais j'ai pas l'impression que tu aies écrit réellement de récits de voyage.
Ben, je sais pas, il y a deux livres ou trois qui feraient partie de cette catégorie là en quelque sorte, enfin trois dont un qui est à paraître, c'est-à-dire sur mes voyages en Asie, hein, qui s'appelle Itinéraire chinois, oui. L'autre qui s'appelle du Baïkal au Gobi, et le troisième qui s'appelle Carnet japonais, qui paraîtra l'année prochaine. Oui. Où là, il n'y a pas de fiction, il n'y a pas d'histoire que je raconte, il n'y a pas de personnage. Le personnage, c'est je ou nous, quoi. Mais oui, le terme de récit de voyage, il est chargé, je dirais, péjorativement. À juste titre, d'ailleurs, parce que c'est souvent très mal foutu, sans grand intérêt, et pas tout à fait lisible. À l'exception, évidemment, de, je ne sais pas, toujours les mêmes, Bouvier, Chatwin et d'autres, ouais. Quoi. Moi, je suis ni Bouvier ni Chatwin, évidemment. Mais il faut qu'il y ait autre chose qui sous-tende. Il faut qu'il y ait quelque chose à dire autre que le fait de raconter les lieux qu'on a traversés. Quoi, voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose que... je sais pas, il me semble quoi, être à la recherche de quelque chose ou orienter tout ce que l'on fait, voit, dit, entend, pense, sent à travers un prisme particulier. C'est ce que j'essaie de faire dans ces livres-là. Il n'y a pas écrit récit de voyage dessus. Mais c'est ce qui s'en rapprocherait ouais. Le plus, oui, puisque ouais. Finalement, ça fait allusion à des expériences. Alors là, pour le coup, c'est les endroits où je suis réellement allé. Là, oui. Par exemple, du Baïkal au Gobi, lorsque je parle de la Sibérie, bon, je parle d'Irkoutsk, je parle de la Baïkal, de l'île d'Olkhon, parce que c'est l'endroit où je suis allé. Contrairement à ce qui se passe dans la piste ouais. Mongole, qui prend appui sur un endroit où je ne suis pas allé. Mais la fiction a besoin souvent de ce décalage, quoi. C'est-à-dire à la fois de... Enfin, pour moi, en tout cas, de arpenter le lieu possible où il pourrait se dérouler, puis finalement de détourner ces lieux-là, quoi. Ouais. Et d'en investir d'autres imaginaires. Ouais. C'est comme ça que je pense que ça se passe. En ce qui me concerne, bien sûr.
Ça me renvoie à Zébald, que tu évoquais tout à l'heure, qui s'appuie justement sur des expériences et des lieux réels, à partir de documents photos aussi. Qui déclenche une écriture, qui est une écriture de, qui mélange, qui est très hybride, qui mélange la fiction, ah oui. L'essai, la réflexion philosophique,
autobiographique
aussi.
Tout à la fois.
Qui s'appuie comme ça sur des éléments forcément réels. Donc je sais pas ce que tu l'évoquais. J'avais envie de t'interroger là-dessus justement sur tes lectures. Parce que là tu parles de Zébald, moi ça me surprend pas, parce que c'est un univers qui me semble assez proche du tien pour ce qui concerne l'écriture, mais j'ignore un peu tout à part quelques auteurs que tu peux citer comme ça sous forme de clin d'œil, comme Bernardo Carvalho, qui est un écrivain brésilien là dans la piste mongole.
C'est des copains, des gens que je connais, quoi, voilà.
Mais est-ce que tu es aussi nomade dans tes lectures que dans tes...
Ouais, je pense. Enfin, nomade, oui. C'est-à-dire que j'aurais du mal à citer... Non, j'aurais pas de mal, en fait, je vais le faire. Je lis beaucoup de... Enfin, je pourrais pas citer les auteurs que je lis, c'est absurde. Mais je pourrais citer ceux qui, en ce moment... depuis quelques temps, sont ceux vers lesquels je reviens. Parce qu'il y a des périodes, là, par exemple, ceux qui m'ont formé ou appris à lire, si je puis dire, ou à écrire, j'ai écrit un peu sur eux dans un petit livre qui s'appelle Une théorie d'écrivain, où j'ai mis en scène ces écrivains-là, c'est-à-dire Borges, Faulkner, Kafka, Thomas Bernhardt, Jenny Montale et tant d'autres. Il y en a une vingtaine, je crois, Georges Perros, etc. Qui sont des écrivains qui m'ont que j'ai abondamment lu presque intégralement, je pourrais dire, enfin je sais pas très bien, mais en tout cas que j'ai beaucoup lu et pendant longtemps, et vers lesquels je suis très souvent revenu et je reviens encore de temps en temps. Ceux-là et d'autres plus anciens comme Saint-Simon ou des gens chez qui on va picorer un peu, Madame de Sévigné, Montaigne, et puis on ira gaillardi, puis on peut repartir ensuite affronter un peu la réalité. Mais il y a aussi des écrivains que je ne connaissais pas ou mal à cette époque-là, lorsque j'ai écrit ce petit livre-là, et qui depuis ont pris pas mal de place chez moi. C'est un écrivain, quelqu'un comme Mo Yan, par exemple, l'écrivain chinois, oui. Mo Yan, dont j'ai à peu près tout lu également, et qui a un souffle absolument prodigieux, et qui est un écrivain, quelqu'un qui m'enthousiasme complètement, comme Murakami, Haruki Murakami, dont l'univers je me sens assez proche de son univers, c'est-à-dire, on parlait d'irrationnel au début de l'entretien, bon, lui aussi, il a écrit pas mal de bouquins. Les livres dont je me sens le plus proche chez lui, c'est ceux dans lesquels cette dose d'irrationnel est la plus prégnante. Qui d'autre, Zébal, justement, dont on parlait à l'instant. Pour l'instant, j'ai que ces noms-là qui me viennent en tête, mais il doit y en avoir d'autres. Pour l'instant, c'est à peu près tout. Mais voilà, mais à côté de ça, je lis beaucoup d'autres choses. Hein.
Mais ça, ce sont des.
Bien entendu, quoi.
Des piliers, des
Ben, c'est parti des. C'est-à-dire que moi, je fais encore.
Des centres de ressources.
Moyenne, oui. Au moins, Camus aussi. Oui, les trois. Ces trois-là, d'ailleurs, ouais. Quand je les lis, je me sens. Ça me fait du bien, quoi, voilà.
Ouais.
C'est enthousiasmant, quoi. Ça me propulse en avant, ça m'élève un peu, enfin, ça me donne envie d'écrire aussi. Voilà, hein. Il y a ça aussi. Souvent, quand on écrit, ce qu'on lit aussi, c'est. Mila Matas parle des journées des écrivains, et il dit la journée d'un écrivain, on se lève à 8 heures, on se fait un escafé, on lit un peu pour se donner l'envie d'écrire, on écrit pendant 2 heures, après on va faire un tour, on boit un café, on rentre, on regarde la télé, on va se coucher. Voilà. C'est la journée palpitante d'un écrivain, d'après Mila Matas. Mais dans cette journée palpitante, il y a le fait on lit un peu pour se donner l'envie d'écrire, et puis on écrit un peu. On fonctionne par tremplin comme ça. Ça ne veut pas dire que si je lis, je sais pas, Faulkner, je vais écrire du Faulkner, je serai bien capable malheureusement, ou que si je lis Moyane, je vais écrire du Moyane. Mais il y a une espèce de pousser comme ça dans le dos quand on lit ces gens-là. Quoi. Il y a une espèce de c'est un tremplin. Ouais. La lecture est un tremplin. C'est un plaisir aussi. Alors évidemment, quoi. Puis on découvre toujours des nouveaux auteurs, et puis les auteurs qu'on ne connaît pas et qu'on doit découvrir, c'est formidable.
Et ce tremplin, cette énergie que tu peux trouver dans la lecture, est-ce que tu la trouves aussi dans la peinture? Parce que tu es la peinture, le trait, le dessin, ce sont des choses qui sont très, très marquantes chez toi. Donc tu en parles
absolument.
Souvent, beaucoup, tu écris des livres là-dessus aussi. Ça te procure la même.
Ah oui, enfin non, pas la même. Oui et non, je dirais. Ça procure, oui, du plaisir, de la joie et de l'excitation et tout. Mais ça procure pas forcément. C'est pas forcément partie des tremplins d'écriture, ça. Alors ça, c'est différent. Moi, j'ai appris à. Avant de lire de la littérature, j'ai lu des bouquins d'art, d'histoire de l'art, quoi. J'ai connu ce monde-là avant de connaître vraiment la littérature. Et avant de pratiquer, évidemment, la littérature. Donc je suis arrivé à la littérature par l'art, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui, chez moi, est. Enfin. Comment puisse très loin dans le temps, quoi. C'est vraiment confronté à la peinture, j'ai l'impression, comme tout le monde, face à un tableau, je fais un saut dans le temps, quoi, voilà. Et mais dans le temps intérieur aussi, dans mon temps à moi. Le trait, la couleur, la perspective, mais pas que la peinture, la photo aussi d'ailleurs, la photographie aussi, l'image, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors, j'ai pas beaucoup écrit là-dessus, quoi, un petit peu différent parfois, mais parce que je m'en sens pas très capable, mais il est certain que c'est un univers qui, en tout cas, me nourrit abondamment. Ouais. Ça me nourrit indirectement, c'est pas pareil, mais ça me nourrit abondamment, c'est sûr. Ouais. Très important, ça.
C'est intéressant ce que tu as dit à propos de ce déplacement dans le temps, ce saut dans le temps, parce que ça aussi, c'est. On parlait de géographie floue, il me semble que c'est aussi quelque chose qui te caractérise, qui caractérise tes textes, c'est qu'il y a un temps flou aussi et il y a un intérêt pour une époque qui n'est pas la nôtre, même si tu es de ton temps et que dans pas mal de romans, de fiction, les personnages vivent de nos jours, mais il y a aussi, mais il y a aussi peut-être là, c'est plus pour ces textes qui sont à cheval entre la fiction et l'essai, la réflexion, ces portraits que tu as pu faire, un intérêt pour choses qui.
Tu parles des premiers livres. Oui. Vivolé, Vida, c'est l'encre, la couleur. Ouais. Mes premiers livres, mais ça c'était un peu différent. C'est-à-dire que c'était des livres. Moi, je suis rentré en. enfin entré en littérature, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai commencé à écrire, à publier, en tout cas, avec ces textes-là, qui sont donc des fictions biographiques. On appelle ça fiction biographique, d'ailleurs, depuis, c'est un genre avéré, ce que j'ignorais quand j'écrivais ça, évidemment. Donc des portraits de personnages, ayant existé ou pas, du reste, des portraits imaginaires ou pas. Et, mais souvent, des peintres, des troubadours, des empereurs, des poètes, enfin, des siècles passés. Mais là, il s'agissait d'une... Enfin, comment dire ? C'est comme ça que je commençais à écrire, moi. C'est-à-dire que écrire au départ, c'était tracer un territoire. Un territoire... c'était me construire un territoire. C'est-à-dire que c'était à la fois payer une dette, un dû, à l'égard de ceux qui m'avaient nourri, c'est-à-dire l'histoire de l'art, c'est une formation, c'est ce qui m'a intéressé pendant très longtemps, qui m'intéresse toujours d'ailleurs, évidemment. L'histoire de l'art, payer une dette par rapport à ça, qui m'avait nourri et construit, quoi, intellectuellement et esthétiquement. Et tracer un territoire personnel en me disant à moi, au départ uniquement à moi, parce que je n'imaginais pas publier ces choses-là, en me disant, voilà où je suis. Moi, c'est ça. Là, je suis là, je suis dans la littérature, dans l'art, dans l'histoire, c'est là où je suis. Et l'image que je donne de moi, à l'extérieur, c'est pas la bonne. Quelque chose comme ça. Évidemment, c'était pas formulé, mais avec le recul, ça fait quand même 15 ans, ça, ou plus même, presque 20 maintenant. Je vois bien ce qui se passait. C'est une espèce de... Je me construisais un territoire, en quelque sorte. Et j'ai écrit ces textes-là, qui ont eu la chance d'être publiés assez vite. Bon. Mais lorsque plus tard, pas plus tard, mais pas beaucoup plus tard, mais juste après avoir en quelque sorte déblayé ce chemin-là, en quelque sorte, lorsque j'ai commencé à écrire une fiction Sortilège. J'ai eu le titre avant de commencer à écrire. J'ai écrit ça en 94. Quand j'ai commencé à écrire ça, qui ne se préoccupait plus justement du passé, de l'histoire de l'art, mais qui était une fiction avec un personnage aujourd'hui, qui fuyait, qui partait. Moi, j'avais l'impression aussi de fuir, de partir, et de partir dans quoi ? Dans la littérature. J'avais l'impression d'entrer vraiment en littérature en écrivant ce texte-là, alors que j'avais déjà écrit 3 livres. Enfin, 2. Peut-être le troisième était contemporain d'écriture de sortilège, plus ou moins, enfin peu importe. J'avais déjà écrit, j'étais déjà publié, mais j'avais l'impression d'entrer vraiment en littérature en écrivant ce texte de sortilège. C'est pour ça que je dis que ces textes-là, ces premiers livres sont un peu à part, c'était une balise, quoi, une balise d'entrée, de sorte. Et après, j'ai pu entrer vraiment dans le roman, dans tout le reste, quoi. Voilà. Ouais. C'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Que je ne me disais pas au moment où ça se passait, bien entendu. Mais que j'ai pu analyser, enfin, qui m'a semblé comprendre ensuite.
Mais, oui, c'est vrai que ces textes ont probablement un statut différent. Et en même temps, j'ai l'impression quand même que même si les histoires aujourd'hui sont contemporaines à notre époque, c'est-à-dire ça se déroule dans un temps contemporain, il y a aussi un flottement et une incertitude. On n'est pas dans quelque chose de linéaire complètement, on n'est pas non plus dans quelque chose de figé.
Au niveau
du temps. Il y a plusieurs choses qui se chevauchent, qui sont là.
Ben disons, temps, c'est-à-dire l'époque à laquelle ça se passe, ça, bon, ça se passe aujourd'hui, point, enfin, c'est pas daté, enfin voilà quoi, ça se passe aujourd'hui. Après, la temporalité dans la fiction, ça c'est autre chose, parce qu'effectivement, la non-linéarité du temps de la fiction, ça c'est. J'ai pas inventé grand-chose en bouleversant la chronologie parfois des histoires, mais introduire des petites doses effectivement de flottement ou d'incertitude temporelle dans le déroulement de la fiction, ça aussi c'est la partie des choses qui m'intéresse assez. C'est-à-dire qu'il y a un souci d'architecture à la fois du roman, enfin de la structure du roman, mais aussi de la temporalité du roman, l'architecture du temps en quelque sorte. Par exemple, la même scène vue plusieurs fois, quelques minutes d'écart par 3 personnages différents et qui plus ou moins développé selon qui l'aperçoit, avec un temps qui s'étire parfois et qui se rétracte d'autres fois, ou alors un personnage comme dans la Jubilation des hasards, je crois, qui rapporte le discours qu'il a tenu à quelqu'un d'autre en le racontant à quelqu'un, à une deuxième personne, donc, mais, et puis il y a un seul discours pour deux destinataires à deux moments différents. C'est beaucoup plus compliqué à expliquer qu'à lire d'ailleurs. Mais en tout cas, ça permet des jeux fictionnels qui me plaisent bien. Voilà, que j'aime bien, qui m'intéresse, ouais. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de raconter, il s'agit aussi de construire ce qu'on raconte. Alors il y a évidemment l'architecture de la narration, l'architecture du roman, si c'est un roman lui-même, avec, c'est une œuvre, avec des piliers, et puis des points d'appui, et puis des centres de gravité, et puis des échos, des symétries, des résonances, des miroirs, des jeux interactifs entre... Et puis aussi, le temps, la manière dont le temps se déroule. On a une liberté totale, quoi, je veux dire, évidemment. Mm. On est absolument... c'est fabuleux. Pourquoi se contraindre à une... Enfin, on peut très bien le faire, le problème n'est pas là. Moi, je l'ai fait moi-même. Une temporalité linéaire, toute simple, sans effet. C'est très bien aussi, et je l'ai fait, je le referai. Aucun problème avec ça. Mais il y a aussi la possibilité de faire éclater un peu ces trucs-là, quoi. Et ça me plaît bien, de bousculer de bousculer un peu tout ça, quoi. Ouais. Notamment la temporalité.
On sent, quand tu parles de ce travail d'écriture, qu'il y a beaucoup de jubilation, qu'il y a beaucoup de plaisir, de beaucoup de jeu de ta part.
Oui, depuis quelque temps, oui.
Ouais. C'était plus dur à une époque ?
Au début, oui. Ouais. Mais justement, depuis que j'ai compris en quelque sorte, pas compris, mais je me suis avisé, quoi, que... De cette liberté dont je parle, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement... toutes les portes sont là, on peut toutes les ouvrir, quoi.
Ouais.
Après, il ne s'agit pas évidemment de dire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un travail de cohérence. Peu importe ce qu'on écrit ou ce qu'on lit, il faut que ce qu'on lit, ça paraisse vrai. Je veux dire, demain... on lit en roman, ça paraisse réel dans la réalité de la fiction, quoi. Voilà. Quoi qu'on écrive, si on l'écrit correctement, ça sera vrai. Voilà. C'est pas la peine de se limiter à ce qui pourrait être une réalité objectivement perçue dans la vraie réalité de la vraie vie. Non, quoi qu'on écrive, quels que soient les délires que l'on puisse avoir, si c'est organisé de manière cohérente, ça paraît vrai pendant le temps de la lecture, au moins. Alors, ce jeu, comme ça, effectivement, sur les derniers romans, qui me permet, ça procure une telle impression de liberté. De plaisir, qu'effectivement il y a cette notion, de plaisir, de jubilation dont tu parles, qui était moins évidente au début, où j'étais peut-être un peu, où j'osais moins, quoi.
Ouais.
Voilà, tout simplement. Ouais. Je me sentais moins autorisé, quoi. Je sais pas, j'osais moins.
Là, c'est la liberté absolue, jusqu'à faire disparaître les personnages, d'ailleurs, vers cette extrême liberté. Ça me semble de plus en plus fréquent.
Qu'ils disparaissent, quoi.
Ces personnages qui, finalement, trouvent tellement de liberté qui s'échappent vers un ailleurs invisible à nos yeux. C'est presque une métaphore de ce que tu écris, j'ai l'impression.
Ouais, peut-être. C'est aussi l'image de ce peintre, la légende de Wu Taozi, le peintre chinois, là, qui disparaissait dans la brume d'un paysage qu'il était en train de peindre. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Disparaître dans ce qu'on écrit, hein, c'est le vieux rêve, quoi. Pendant qu'on écrit, en tout cas.
Ouais.
Après, non.
Pendant qu'on écrit. On vient te retrouver quand même. Donc.
Disparaître dans ce qu'on écrit.
Pour revenir.
Ah, mais ça a procuré chez moi des rêves absolument fabuleux, quoi. Des vrais rêves, hein, des rêves de. Des rêves de nuit, enfin des rêves, quoi. Voilà. Pas comme on dit, j'ai un rêve, c'est de faire ci ou ça. Non, non. Ça procurait. J'ai souvent rêvé de situations absolument presque extatiques, quoi, qui ont provoqué l'écriture ensuite, quoi.
Ouais. Ouais.
Je me souviens que avant d'écrire La Jubilation des hasards, j'avais rêvé. Alors, le rêve, en le racontant, il n'a aucune. Enfin, il n'est pas extraordinaire, mais il m'avait procuré. J'étais dans un état second au réveil. J'avais rêvé que il y avait une carte de Sibérie qui se déroulait au-dessous de mes yeux, Et je suivais le fleuve avec le doigt, et je devais remonter le fleuve. J'avais le projet de ce voyage, remonter un fleuve en Sibérie, en raquette, donc l'hiver, j'imagine, vers sa source. Voilà. Je me suis réveillé, j'étais alors dans un état d'extase totale, quoi. Et ça a c'était le rêve qui a provoqué le tout début. Après, évidemment, la fiction fait son œuvre, et puis le travail d'écriture aussi, mais qui a été le déclencheur de ce roman, qui au départ s'appelait La remontée des fleuves, d'ailleurs. Titre que j'ai attribué à mon personnage, oui, dans La piste mongole, d'ailleurs. Voilà, qui était le premier titre à La jubilation des hasards, La remontée des fleuves. Et là, je vais le faire cet été, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que cet été, je vais en Sibérie, je vais non pas remonter, mais je vais descendre un fleuve. Et non pas
et tu vas travailler
et non pas en raquette mais en bateau. C'est-à-dire que je vais le remonter sur la carte, c'est l'Alena qui part du centre de la Sibérie et qui monte vers l'océan Arctique, enfin qui descend donc, mais sur la carte ça monte vers le nord. Et voilà, donc je vais faire l'inverse de mon rêve, l'été en bateau descendre un fleuve en Sibérie, ouais, au lieu de le faire l'hiver en raquette remonter un fleuve en Sibérie. Pas mal.
C'est pas mal.
Je sais pas ce que ça donnera ensuite.
Christian, tu peux juste, pour terminer, on est début novembre, nous dire ce qui doit paraître de toi dans les semaines et mois qui viennent.
Alors, il y a donc ce petit livre chez Cadex, cette nouvelle dans la collection Texte au carré, qui s'appellera Circé ou une agonie d'insectes. Avec des illustrations. La formule texte au carré chez Cadex, c'est donc une nouvelle, une préface d'un auteur, d'un ami écrivain, enfin ami ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, et puis une illustration couverture de la part d'un peintre ou d'un dessinateur. Là, c'est Philippe Favier qui fera l'illustration et Christophe Fourvel qui a fait la préface. En avril, il y a ce carnet japonais qui paraît chez L'Escampette. Et j'ai terminé cet été d'ailleurs, en fait, enfin j'ai terminé en septembre, disons, une espèce de récit policier qui met en scène un personnage de La piste mongole, qui est un personnage...
Le rhizome continue.
Ouais, qui existe réellement, lui, pour le coup, qui s'appelle Chu Wangwang, qu'on surnomme Tsuro, c'est-à-dire Zoro, en Chine, parce que c'est un détective privé qui vient au secours des femmes vendues à des paysans, des femmes dans les campagnes vendues à des paysans un peu plus riches que leur famille à elle, et souvent ensuite maltraitées, et qui font appel à lui pour le délivrer. Bref, voilà. Ça c'est réel, hein, ça existe vraiment, et ce personnage-là, j'en ai fait un personnage de fiction, et ça s'appellera donc Tsuluo, un récit policier de Chen Wanglin, Chen Wanglin étant l'auteur, dans La piste mongole, mais ce sera sous mon nom, et je ne sais pas quand ça paraîtra, ça. Non, c'est tout récent, donc Verdier l'attend, mais voilà. Voilà ce qui t'apparaît.
On va l'attendre aussi. Merci beaucoup, Christian.
Ben, merci à toi.
Et puis, bon voyage, parce que je sais que tu pars.
On part en voyage aujourd'hui, mais voilà,
c'est un secret.
C'est un secret, voilà.
Con toda palabra.
Voilà, c'est la fin de cette rencontre à l'air libre. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Christian Garcin. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast ou la télécharger sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org. Vous y trouverez aussi de nombreuses références bibliographiques. Prochaine émission à l'air libre, le premier mercredi du mois de décembre, avec Emmanuel Loi. À bientôt.
Es juego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo.